Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la question toujours rejouée, toujours remise en jeu, des mémoires de la guerre d'Algérie. À l'ordre du jour ce soir, guerre d'Algérie, comment passer des mémoires familiales à une histoire collective? Le président de la République a confié le 24 juillet dernier à Benjamin Stora une mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie en vue de favoriser, je cite, la réconciliation entre les peuples français et algériens. Dans cette optique, l'historien doit rendre des recommandations d'ici à la fin de cette année. Un ouvrage de l'historienne Raphaël Branche vient opportunément ajouter à la compréhension de ce phénomène mémoriel particulier. Il s'intitule « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?». Elle y a interrogé des anciens combattants français, mais aussi leurs familles, pour mieux comprendre ce silence qui a duré si longtemps au cœur de notre société. Raphaël Branche est notre invité ce soir, en compagnie du plasticien Kader Attia, qui avait créé en plein cœur de Paris un lieu pour débattre de la colonisation et de ses conséquences. Ce lieu est la colonie, mais la crise de la Covid aura peut-être eu raison de son existence. Kader Attia, dont le prochain travail portera sur la question du silence. Avec nous également la psychologue Safia Metidji, dont la thèse, soutenue en 2016, portait sur la mémoire traumatique familiale des descendants de la guerre d'Algérie, car
les plusieurs groupes porteurs de cette mémoire algérienne dans la société française continuent d'exister naturellement et de souffrir pour certains. Je pense bien sûr les Européens d'Algérie, les Européens, près d'un million qui ont quitté l'Algérie dans l'année 62. Je pense bien sûr aux harkis, les troupes supplétives de l'armée française. Mais également, il faut signaler les soldats dont on parle assez peu, les appelés d'Algérie, près plus d'un million et demi de soldats français qui sont partis en Algérie, dont certains ont passé leur jeunesse là-bas, et qui sont aussi très nombreux dans la société française d'aujourd'hui. Et puis, n'oublions pas les immigrés algériens en France et leurs enfants, ce qui fait qu'au total, plusieurs millions de personnes dans la société française d'aujourd'hui continuent d'entretenir cette histoire, cette mémoire dans leur esprit, dans leur cœur, avec quelquefois et souvent même des visions contradictoires sur ce qui s'est passé réellement dans cette histoire, certains approuvant le processus de colonisation et d'autres au contraire le récusant fortement en expliquant que la colonisation a été synonyme de brutalité.
Voici ce que déclarait Benjamin Stora sur France Inter le 1er août dernier. C'est question des mémoires variées, nombreuses et parfois avec des visions contradictoires, y compris à l'intérieur des mêmes groupes sociaux, pourrait-on dire. Bonsoir Raphaël Branche.
Bonsoir.
Oui, il y a dans les mêmes groupes sociaux, et c'est ce que vous racontez dans ce large panel que vous avez interrogé, questionné par écrit, puis ensuite en face à face d'anciens combattants et de leurs familles. Donc il y a des gens qui viennent de tous les horizons politiques, par exemple, et qui ont tous connu cette même expérience guerrière qui était la guerre d'Algérie.
Oui, mais c'est vrai que si on reste sur l'idée de pluralité par laquelle vous avez lancé l'émission, en réalité, la guerre est plurielle et l'expérience est plurielle. Et c'est pas effectivement la classe sociale qui fait la différence d'expérience, mais c'est le lieu en Algérie, l'année, le régiment. Enfin, voilà. Donc si on cherche à faire la liste des différences, il y en a plein, il y en a tout le temps. Et on peut s'y perdre et on peut finir par désespérer de trouver un jour un discours qui réunira tout le monde.
Oui, effectivement, et peut-être c'est un discours impossible. Kader Attia, vous êtes artiste, vous êtes vous-même descendant, grandi en France d'Algériens. Cette histoire parallèle, pourrait-on dire, des expériences autour de la guerre d'Algérie, vous l'avez vécue directement dans votre propre famille?
Oui, absolument. Alors, pas directement, puisque moi j'étais même pas né d'ailleurs pendant la guerre d'Algérie.
Bien sûr, vous êtes né en 1970.
Mais à travers les récits familiaux de mes oncles, mon oncle par exemple, à qui on a abattu le père et le frère devant lui, qui a dû ensuite porter le sac des Didas qu'ils ont abattu sur des kilomètres, ensuite il s'est évadé. Donc il y a plusieurs récits comme ça qui m'ont fait entrer très lentement dans cette histoire. Et on en parlera tout à l'heure, qui sont, en ce qui me concerne, des récits familiaux.
Mmh. Voilà. Et c'est effectivement très important, ces questions de récits familiaux. Safia Metidji, bonsoir. Vous avez vous-même travaillé en tant que psychologue sur ce traumatisme psychique, ce que vous avez appelé dans votre thèse en 2016, l'œuvre d'exil au cœur du processus de subjectivation des descendants de la guerre d'Algérie, par-delà la mémoire traumatique familiale. On va beaucoup parler de famille parce que c'est le cœur du travail de Raphaël Branche, mais c'est aussi le vôtre, Safia Metidji.
Oui, tout à fait. Je suis partie d'un constat que les enfants, ce que j'appelle les enfants de la guerre d'Algérie, n'ont pas toujours accès à leur histoire familiale du fait du silence sur le sujet, silence indicateur d'une certaine façon aussi de traumatisme. Je me suis intéressée justement à étudier les effets psychopathologiques de ces silences parentales sur les enfants et plus largement silence familial autour de la guerre et pour certains de l'exil. Et c'est vrai que si les différents groupes, les différentes communautés ont vécu chacun, les mémoires sont plurielles comme le disait Raphaël Branche, il n'empêche qu'il reste ces silences qui s'observent autant chez les appelés du contingent que chez les anciens combattants algériens que chez les rapatriés. Donc j'ai presque envie de dire que ce silence est le dénominateur commun à tous ces hommes sur cette génération. Et je reprends presque le terme qu'utilise Raphaël Branche dans son ouvrage, que je trouve très très juste, hein, c'est qu'il reste des fragments paternels. Et au fond, on a à composer sa vie avec ces fragments.
Ouais, on va parler justement de ces fragments paternels dans les familles d'aujourd'hui, pourrait-on dire. Mais il y a aussi des fragments paternels qui viennent des guerres précédentes. Il y a aussi, vous avez le grand mérite de remonter très haut, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, pour expliquer que ces silences, c'était aussi les silences des pères, voire les silences des grands-pères, qui n'avaient pas raconté Verdun, mais qui, au détour d'une phrase, peut dire « Oui, tu te plains, mais moi j'ai fait Verdun », ou d'autres qui n'avaient pas raconté la défaite de 40, leur emprisonnement en tant que prisonnier de guerre, etc., qui pèsent sur les épaules de ceux qui s'en vont en Algérie pendant la guerre.
Oui, c'est ça. En fait, la question qui m'intéressait, c'était de comprendre les conditions de possibilité d'un récit, pour le dire peut-être un peu autrement. Le silence, c'est une forme de communication, on y reviendra sans doute. Il y a différentes manières de le définir. En tant qu'historienne, je pense que je ne le définis pas exactement comme le ferait un psychologue. Ou une psychologue. Donc les conditions de possibilité des récits, c'est notamment les représentations disponibles dans une société ou dans une époque. Et en l'occurrence, la génération des hommes qui sont partis en Algérie faire leur service militaire, il faut rappeler qu'ils sont partis non pas faire la guerre, mais faire leur service militaire, la représentation, elle s'ancre dans ce qu'ils ont connu dans l'enfance. Dans l'enfance, on est dans les années 1930. Et donc dans les années 1930, la mémoire de la Première Guerre mondiale est extrêmement forte. Donc voilà, j'ai essayé d'identifier un peu les éléments fondamentaux à disposition de non pas seulement de ces hommes, mais de leur famille, notamment de leurs frères et sœurs, de leurs camarades de génération, hein, avec qui ils pouvaient partager une certaine vision du monde, une certaine compréhension de la guerre, et au sein et sur le fond de quoi se dérouleraient ensuite les éventuels récits de leur expérience algérienne ou les éventuels silences de leur expérience algérienne.
Kader Attia, quand vous travaillez sur le silence, comme vous êtes en train de le faire pour vos prochaines œuvres, justement, vous travaillez sur ce silence-là ou c'est le silence en général de nos sociétés vis-à-vis des événements traumatiques qui vous intéressent en tant qu'artiste ?
Alors, lorsqu'on est artiste, on est toujours nourri par une histoire, par un univers intérieur. Et justement, tout à l'heure, je racontais cette récit venant de mon oncle qui avait perdu son père et son frère pendant la guerre d'Algérie. Il ne nous a jamais raconté ce récit. Il a fallu qu'un jour, au détour, je ne sais pas si vous vous souvenez, des accords de Slo, bien sûr, entre Arafat et...
Oui.
Dans une conversation où on s'insurgeait par le fait que Arafat veuille faire la paix, il était plutôt très belliqueux, en plus, comme caractère, vraiment quelqu'un de très nerveux. Il s'est levé en disant « Vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. On a assassiné mon frère et mon père devant moi, je ne veux plus entendre parler de la guerre, ce que fait Arafat, c'est très bien, il faut faire la paix. » C'est quelque chose qui m'a marqué vraiment très profondément. Je me suis dit comment tout ce temps, Ali, donc notre oncle, a gardé cette histoire et nous l'a jetée en pleine figure le jour où il était justement question de paix, en fait. Et pour moi, c'est déjà comme point de départ la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser au silence en tant qu'absence, en fait. C'est-à-dire ce sur quoi des gens comme la psychanalyste Karima Al-Azali a beaucoup travaillé dans le trauma colonial, à savoir le non-dit, en fait, le non-lieu. Tout ce qui est fait dans le récit en l'occurrence coloniale, pour créer justement le fait que ça ait lieu. À partir, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup au silence, comme encore une fois, je dirais presque, vous savez, le membre fantôme en fait, cette partie qui a été amputée, mais qui demande à revenir à sa place, comme s'il y avait une sorte d'appel en fait, d'appel silencieux. D'être entendu. Et là, bon, je pourrais en parler longtemps, mais c'est la raison aussi pour laquelle j'ai créé la colonie, parce qu'à mon avis, il faut des lieux où on puisse libérer la parole, parler, pas seulement de la guerre d'Algérie, mais au moins se parler, parce que plus on refoule, en fait, les récits, et plus... alors là, en l'occurrence, dans mon histoire familiale, c'était sorti lors d'une conversation sur la paix et la guerre... une argumentation sur la notion de paix et de guerre, mais dans d'autres contextes, ça peut sortir ça peut mal sortir, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Comment je m'intéresse.
Et c'est effectivement ces surgissements qui vous ont intéressé aussi, Raphaël Branche, dans Papa qu'as-tu fait en Algérie. C'est-à-dire que vous voyez, après la guerre, et même pendant la guerre d'ailleurs, certains de ces personnages qui d'un seul coup ne se contrôlent plus parce que ils ne peuvent plus garder pour eux ce qu'ils ont vécu, mais ça surgit et ça disparaît presque aussitôt souvent dans leur propre récit.
En fait, ça m'intéressait de revenir à l'expérience de guerre, c'est-à-dire qu'on parle souvent du silence, ils n'en ont pas parlé, mais c'est quelque chose 20 ans après, 30 ans après, ou ce récit qu'on vient d'entendre qui est 30 ans après, et qui constate ils n'en ont pas parlé depuis. Moi, ce qui m'intéressait de voir dans le cas d'une population d'appelés très largement alphabétisée et correspondant avec leur famille, c'était de voir ce qu'ils avaient été capables d'écrire à l'époque déjà, et de dire et de transmettre, parce que parfois, l'explication du silence après tient au fait qu'on a déjà raconté. On a déjà raconté, on a déjà partagé, on a déjà commenté, et donc on va passer à autre chose parce qu'on a déjà perdu 2 ans de notre vie, notamment les jeunes couples. Donc on peut aussi comprendre le silence, pas forcément comme un traumatisme, mais aussi comme un récit commun, mais qui appartient au passé.
Sauf qu'on ne raconte pas par lettre la même chose à son père, quand on arrive à avoir une correspondance avec son père à ce moment-là, à sa mère, à ses frères et sœurs, et plus tard, peut-être à ses propres enfants.
Alors effectivement, je n'ai pas répondu à votre question du surgissement, mais effectivement... ça ne veut pas dire que tout est réductible à ce que je viens de dire, mais effectivement, il y a des silences qui sont variables en fonction des interlocuteurs. Et ça, c'est vraiment le cœur de ma démarche, c'est de dire que le silence est relationnel.
Et cela, justement, vous le constatez en tant que psychologue, justement, Safia Metidji, vous aussi ?
Oui, tout à fait. Au fond, quand on parle de silence, c'est jamais un silence vide. Au final, c'est un silence qui en dit long. Hein, et notamment quand il a lieu au sein de la transmission. J'ai presque envie de citer Sigmund Freud, le célèbre psychanalyste, qui disait « Il n'y a pas de processus psychique qu'une génération soit capable de dérober à celle qui la suit. » Au final, les descendants savent ou sauront, parce qu'ils fouillent, parce qu'ils cherchent, ils sont avides de se passer, hein, pour reprendre aussi l'expression de Benjamin Stora. Donc la mémoire familiale, au fond, elle n'est pas au singulier, mais il y a des mémoires familiales qui sont singulières. Chacun porte la sienne au sein même de sa fratrie. On n'a pas la même mémoire, on compose avec les silences, on essaie de créer autour de ces silences, mais c'est pas du vide.
Et cela, justement, Kader Attia, vous-même, vous dites il y a des moments où ça surgit, donc vous nous avez raconté un moment de surgissement, mais pour la faire advenir, cette mémoire, quand vous la voulez, quand vous voulez qu'on témoigne pour cette histoire familiale, est-ce que vous allez questionner ? Est-ce que vous êtes allé questionner ? Parce que c'est une des questions que pose aussi Raphaël Branche. Il y a ce que disent ceux qui ont fait la guerre, par exemple, et puis il y a le silence, ou peut-être la volonté de ne pas questionner de ceux qui les voient revenir. Le père qui peut dire, ou la mère qui peut dire, maintenant, t'es là, t'es revenu, on n'en parle plus, par exemple. Et ce qui peut choquer certains de ceux qui ont fait cette guerre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de cette sollicitation que vous auriez pu avoir vis-à-vis de ceux de votre famille qui ont participé de près ou de loin à cette guerre ?
Moi, ce qui m'avait marqué dans cette histoire, c'est que j'ai... encore une fois, c'était un nom qui avait beaucoup de caractère, et... j'ai compris ce jour-là que lorsqu'on a vraiment vécu la guerre, on n'a pas envie d'en parler, en fait. Pour plein de raisons. Plus tard, si vous connaissez mon travail, j'ai beaucoup travaillé sur les gueules cassées de la Première Guerre mondiale.
Bien sûr.
les gars de Castet qui étaient des traumatisés physiques, mais aussi évidemment psychologiques. Et en faisant des recherches, j'ai aussi découvert à quel point il y a eu des soldats, avec la plupart des gueules cassées par exemple, refusaient, alors qu'ils étaient célébrés en France comme des héros et en Allemagne comme des vaincus, refusaient cette exposition et surtout de parce qu'elle leur faisait revivre en fait ce drame. Mais je crois qu'en fait, pour revenir à, vous savez, moi je suis artiste, mais j'essaie de réagir et en tout cas de réfléchir d'un point de vue sensible. Je crois que nous sommes tous les acteurs d'une mémoire qu'on n'a pas forcément vécue en fait. Et dans le cas de l'histoire de la guerre d'Algérie, à titre personnel, il y a des choses parfois qui me... Par exemple, il y a une autre anecdote vraiment importante, que j'ai toujours été fasciné par les bijoux, les vieux bijoux en argent très humbles des Aurès, pendant très longtemps, et j'ai jamais su pourquoi. Je les ai dessinés très tôt, je les collectionne un peu aujourd'hui. Et c'est un jour, ma mère m'a raconté que ma grand-mère rassemblait les bijoux des vieilles mariées, en fait des veuves même, qui avaient été mariées au début du XXe siècle. Hein, et elle les collectait dans des paniers. Mm-hmm. Et ces bijoux qui étaient collectés au bout de 3 mois à peu près étaient cachés dans une grotte qui est juste derrière notre ferme dans le Douar, où le reste de ma famille habite encore, que je connais par cœur, cette petite grotte. Et tous les 3 mois, des soldats de l'armée de libération venaient collecter tous ces bijoux et à Dodane allaient transiter jusqu'à au-delà même de la frontière tunisienne. Vous savez que c'était un champ de mines qui séparait la frontière tunisienne et l'Algérie parce que le siège du FLN était là-bas. Et ces bijoux étaient fondus en lingots d'argent pour acheter des kalachnikovs pour la résistance. Donc, si vous voulez, quand vous travaillez sur le sensible, vous observez beaucoup. Ce genre de vous posez beaucoup de questions sur la raison pour laquelle vous vous intéressez à cela. Et une des choses que j'avais découvert et sur laquelle qui me fascine jusqu'à aujourd'hui, c'est que la quasi-totalité des bijoux des Aurès, des bijoux des anciennes régions colonisées, alors, parce qu'on peut en plus l'étendre à une très grande échelle, sont toujours composés avec des pièces de monnaie à l'effigie du symbole de puissance des occupants. Mmh. Alors des pièces de monnaie représentant la République, Napoléon, la reine Victoria, le roi espagnol, et dans le riche marocain par exemple. Et ça, ça m'intéresse beaucoup dans mes recherches pour essayer de comprendre comment par exemple certains auteurs comme le brésilien Oswald de Andrade a appelé l'anthropophagie culturelle, c'est-à-dire comment les premiers signes de résistance sont des absorptions, des cannibalisations des symboles de l'oppresseur, de l'occupant en tout cas, qu'on lui revomit au visage en fait. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, ces petits bijoux faits par des artisans, parce qu'ensuite j'ai fait beaucoup de recherches dans les montagnes des Aurès, cachent en fait affichaient sur la parure une décoration très sophistiquée, très belle, de corail rouge de la région de Béjaïa ou de d'autres pierres. Et en fait, la figure de l'effigie était toujours tournée vers le corps, en fait. Je parle ici des bijoux d'argent, hein, je parle pas des bijoux d'or où le louis est affiché. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme un fil, en fait, si vous voulez, que je tire pour essayer,
de loin, justement,
à la fois à partir d'un secret de famille, en fait, d'une histoire vraiment familiale, d'essayer de comprendre un peu comment, à un niveau collectif, on peut adresser quelque chose, on peut essayer de commencer une conversation avec d'autres histoires.
Raphaël Branche, comment justement démêler aussi d'autres fils, les fils de ces mythologies familiales, de ces oublis volontaires, ou au contraire de ces récits que l'on met en avant, peut-être pour en cacher d'autres? Comment avez-vous fait justement dans les entretiens avec ces familles pour pouvoir faire en sorte d'essayer de comprendre ce qu'était, vous êtes historienne, ce qu'était l'histoire vécue et transmise ou pas par ces familles de la guerre d'Algérie?
Alors, je répondrai avec plaisir à votre question. Je vais le faire, mais c'est vrai que j'ai envie de réagir à ce qu'est... Bon, bref, d'accord. Alors, comment j'ai fait? J'en sais rien.
Non, allez-y, réagissez d'abord. Non, c'est plus intéressant.
Non, en fait, en écoutant Kaderatia, je me dis vraiment, il faut qu'on parle de l'imaginaire, c'est-à-dire la manière dont les descendants imaginent, se représentent et avec quels éléments. Et on revient toujours à cette histoire de quels sont les ingrédients du récit. Donc, c'est la post-mémoire qui a été théorisée par Marianne Hirsch sur cette question de la créativité des descendants, mais là, ce qui me frappe aussi en vous écoutant, Kaderatia, c'est c'est comment on comble les trous, hein, comment avec son imagination, bien sûr, et comment on construit un récit. Et c'est aussi, bien sûr, un des enjeux du très contemporain aujourd'hui et du construire ensemble sur la guerre d'Algérie. C'est pas un récit de vérité partagée, c'est un récit qui nous mettra à peu près tous d'accord.
D'accord sur quoi ?
Sur ce que nous avons en commun, vraisemblablement.
J'ai l'impression d'avoir un baromètre dans le genou. Surtout lorsqu'il pleut, c'est à l'hôpital que j'ai le plus souffert.
France Culture.
Mais comment est-ce arrivé ?
Le temps du débat.
En rentrant, un soir de manœuvre, un attentat.
Emmanuel Laurentin.
Ah, la grenade, c'était fréquent.
Évidemment, un extrait de la chanson Le Retour, issu des Parapluies de Cherbourg. On en parlait déjà tout de suite après la guerre d'Algérie, évidemment, dans ce film de Jacques Demy, qui est assez extraordinaire, justement, parce qu'il dit cela. Quand un des points, Safia Metidji, du livre de Raphaël Branche, c'est de travailler, par exemple, sur ce qu'elle appelle, et ce qu'on peut appeler la honte de ceux qui sont revenus et qui n'ont pas raconté parce qu'ils ont manqué de courage ou parce qu'ils ont assisté à des choses qui étaient insupportables. Et donc, ils ont eu honte, par exemple, Jean Leblond qui dit « Notre amusement dans le bled, c'était de rassembler des femmes et des hommes et de les mettre à nu, par exemple. » Et cela, évidemment, ça vient au détour de la conversation avec l'historienne qui est Raphaël Branche, mais ça n'a jamais été raconté auparavant. Cette honte, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, justement, Safia Metidji.
Alors la honte a cela de particulier que c'est une sorte de culpabilité sans faute. On est mal avec ce que l'on a vécu, avec l'insupportable de ce que l'on a vécu, sans qu'il y ait au fond un vécu concret de honte envers ce qu'on a subi. Hein. Alors maintenant là vous évoquez la honte de ce que l'on a fait, de ce que l'on a commis.
Ou ce qu'on a pu voir, au moins connu. Oui, c'est cela.
Alors c'est ça, parce que effectivement, on peut tout à fait vivre des traumatismes non seulement de ce que l'on a vu, ce que l'on a commis, et puis ce que l'on a vécu soi-même en tant que victime. Hein, donc il y a plusieurs formes de traumatisme. Alors la question de la honte est très très complexe parce que c'est un affect comme la souillure, la salissure, ce sont des affects qui sont hors du champ du pensable. Et donc on est dans le registre de l'impensable, et là où le psychologue est censé amener à ce travail de pensée, on voit qu'on arrive à une impasse, à quelque chose qui vient bloquer la pensée et qui est de l'ordre de l'innommable.
Et pourtant, on vous l'a nommé, justement, cette honte, à certains moments dans votre enquête, Raphaël Branche, on vous en a parlé, vous avez réussi à la faire surgir d'une manière ou d'une autre.
En fait, je pense que finalement, peut-être l'origine de mon livre, c'est le décalage que je ressentais dans les années 90, quand moi je travaillais sur notamment la pratique de la torture par l'armée française, entre ce qu'on me disait, à savoir « mon père ne m'en parle pas, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait, mon oncle n'en a jamais parlé, etc. » et moi, des appelés qui me parlaient. Et donc je me disais, mais c'est pas la même chose. Et donc il a fallu du temps pour que je comprenne que parler à une historienne, c'est pas parler à ses enfants ou parler à sa femme. Donc oui, effectivement, dans un contexte particulier, ceux qui ont accepté de répondre à mon enquête, et donc c'est donc 300 personnes, c'est pas non plus tous les appelés, certains m'en ont parlé. C'est un sentiment qui a été identifié déjà par des psychiatres qui ont travaillé sur ces traumatismes des appelés, cette question de la honte. Mais je profite pour revenir parce qu'il y a quelque chose qui me gêne un petit peu depuis le début de l'émission. C'est qu'on tourne autour de l'idée du traumatisme un peu en permanence.
J'allais y venir.
D'accord.
Mais c'est bien, allez-y.
Ben, c'est-à-dire que, bien sûr, mais en fait, si on part de l'hypothèse que tous les hommes qui ont été en Algérie sont traumatisés, c'est sûr qu'on va les trouver tous traumatisés à la fin. Mais c'est, à mon avis,
une faute, une erreur.
Une grave erreur de perspective, vraiment. Et en revanche, comprendre comment la pensée qu'ils sont traumatisés est une pensée de plus en plus fréquente dans notre société.
Bah, il faut dire qu'on a inventé le syndrome post-traumatique. C'est une
on les a reconnus comme victimes possibles depuis 1992, donc c'est très récent. Mmh. C'est 30 ans après la guerre seulement qu'ils ont le droit à des indemnités de la part de l'État s'ils arrivent à établir notamment donc l'existence de symptômes de en gros ce que vous avez dit le PTSD. Donc oui, et puis ça, c'est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire c'est un certain état de notre société, un certain rapport à la violence, un certain rapport au colonialisme, enfin bref. Et donc cette thématique de la victimisation et du traumatisme, elle est très audible désormais, elle est même assez dominante. Mais si tous les silences sont réduits à du traumatisme, on comprend l'angoisse de certains enfants, C'est-à-dire de se dire effectivement mon père ne parle pas, donc c'est qu'il a fait quelque chose d'affreux, parce que par ailleurs on imagine que le traumatisme vient toujours, et c'est ce que vient de dire votre invité, il y a plein de manières d'être traumatisé pour plein de types d'actes différents, et notamment parce qu'on n'a rien fait. Ça peut aussi expliquer qu'on se sente pas bien du tout face à ses valeurs, qu'on n'a pas été capable de défendre, aux engagements qu'on avait pris vis-à-vis des siens et vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de Dieu, qui peuvent déclencher des traumatismes. Et puis, il y a plein d'appelés qui sont revenus sans du tout être traumatisés, sans avoir jamais développé de traumatisme, et qui pour autant n'en parlent pas volontiers. Donc voilà, c'est ça que je voulais juste rappeler.
Oui, Kader Attia, justement, sur l'autre face, pourrait-on dire, de cette histoire, c'est-à-dire que on est dans une société où il y a à la fois des enfants de ceux qui sont et des petits-enfants de ceux qui sont partis faire la guerre en Algérie, mais aussi de ceux qui ont défendu l'Algérie contre les Français et qui les ont donc et ont obtenu l'indépendance. Tout cela, ils sont sur le territoire national. Comment faire en sorte, ce que disait tout à l'heure Raphaël Bronche, qu'on arrive à discuter de cela, puisque vous avez mis au cœur de votre discussion, de votre propos, premier propos, la notion de discussion, Kader Attia.
Pour moi, si vous voulez, on ne peut pas envisager une réparation sans inclure la blessure. C'est ce qui fait partie vraiment du centre de mes recherches depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est le jour où j'ai compris que la réparation était applicable à toute forme de choses dans l'univers, c'est qu'elle était un oxymore. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas penser réparation sans qu'il y ait blessure quelque part. Donc si on veut, par des discussions, libérer la parole, on doit inclure la parole des descendants, je mets des guillemets là, hein, des bourreaux et des descendants des victimes. On ne peut pas se retrouver, c'est ce que j'ai défendu à la colonie, quand il y avait des débats où on était entre soi. On ne peut pas avancer si quelqu'un vient dans un débat et a un argument contre et il est hué et pas écouté. C'est un travail en fait la mémoire, c'est pas une stèle. Il faut vraiment, à un moment donné, se mettre à table. Et surtout, j'accorde une importance particulière à cette question du débat aujourd'hui, où tout le monde est en ligne sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, se déplacer avec son corps dans un endroit pour faire partie d'une conversation, c'est déjà un effort, et à mon avis, un effort fondamental dans cette conversation.
Oui, parce que justement, c'était le lieu que vous vouliez, la colonie. D'ailleurs, qu'en est-il ? Vous disiez que ça allait bientôt s'arrêter. Ça s'arrête véritablement, ce lieu, à Paris ?
Oui, malheureusement, ça s'est arrêté. On n'a plus d'espace, mais on travaille à retrouver un espace. La situation de coronavirus, comme vous le savez, est très difficile pour tous les lieux recevant du public. Et donc, on traverse une phase difficile. Mais pour nous, vous savez, si on avait un très beau lieu, si demain on se retrouve dans un tout petit lieu de 50 mètres carrés ou même de 30 mètres carrés, on sera quand même content. Parce que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un lieu où on peut
organiser la discussion.
Par exemple, absolument. On a ouvert le 17 octobre symboliquement par rapport au 17 octobre 61. Et chaque année, on avait des débats. Et c'était extraordinaire. Il y a eu le dernier débat. Vous voyez des gens, des anonymes qui viennent, prennent le micro. Un petit monsieur qui avait un manteau beaucoup plus large que lui nous explique qu'en fait, il était là dans cette manif et qu'il a pu échapper aux mains des policiers parce que, comme vous pouvez le constater, je suis d'une toute petite taille. J'ai vu les corps qui étaient menottés dans la Seine. Il nous a fait toute une description de en nous disant qu'il connaissait pas ce lieu, la colonie, et que dans un autre bistrot un peu plus haut, un ami kabyle lui a dit tiens. On va parler ce dont tu nous parles depuis 40 ans, là, et personne ne veut t'écouter. J'ai vu un prospectus là-bas, dans ce lieu, là, je sais pas ce que c'est, mais il y a un débat sur le 17 octobre, sur les manifs. Et il est venu. Et je pense que on a plein de témoignages comme ça très forts à la colonie, et notamment essentiellement d'anonymes surtout, même si on a invité beaucoup d'universitaires qui, eux, présentaient des conférences, prouvent à quel point il y a vraiment une nécessité, effectivement.
De débattre et de discuter.
Vraiment de converser aussi, pas seulement de revendiquer en fait, mais que la réparation c'est vraiment une conversation. La réparation c'est d'abord une écoute en fait.
Oui. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Raphaël Bronche et Safia Mekidji sur ce point justement.
Non, simplement ça me fait penser à une expérience à laquelle j'ai été associée. On a créé une exposition sur la guerre d'Algérie et ses mémoires en partenariat avec l'ONAC et l'Éducation nationale. Et donc il y a des tables qui sont organisées.
Anciens combattants.
Pardon, oui, et victimes de guerre. il y a des tables, disons des tables de témoins qui sont organisées devant les publics scolaires où sont invités en général un ancien membre du FLN, un ancien appelé du contingent, parfois un harki, parfois un rapatrié ou une rapatriée d'Algérie. Et ce qui est assez magnifique, c'est que chacun raconte de son point de vue l'histoire et devant tous ces enfants qui sont des publics de collège ou de lycée. Et je pense qu'une des plus belles choses, c'est à la fois la diversité, hein, la complexité, et puis le fait de constater que les enfants constatent que tous ces gens s'écoutent, que tous ces gens s'écoutent, ne se contredisent pas, ne sont pas en guerre, et que précisément les mémoires et les récits peuvent coexister en bonne entente. Et c'est une expérience assez magnifique.
Safia Matidji, sur ce point justement.
Oui, j'aurais tendance à dire que les la mémoire, c'est le lieu du lien. C'est un lieu de partage. C'est pas un aspect qu'on garde pour soi, je pense, en déliaison de tout. Il s'agit effectivement de pouvoir la partager pour se réhumaniser soi-même, pour prendre sans doute plus de distance et puis pour devenir agent de transmission. Mais quand on parle, en règle générale, on se libère. On se libère d'un poids, qu'on soit d'ailleurs, qu'on ait été traumatisé ou pas. Je reviens sur ce que disait Raphaël Branche précédemment. Effectivement, c'est pas le silence qui est le témoin du traumatisme. C'est ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Pour avoir rencontré quelques appelés du contingent qui interviennent également en milieu scolaire, tous les dépositaires. Enfin, ils me disent et ils témoignent ce syndrome de répétition sous forme de cauchemars, de sursauts, d'illusions qui surviennent, qui surgissent 60 ans après la guerre. Donc effectivement, il n'y a pas toujours trauma, mais quand il est là, il peut demeurer. Et il s'agit, je pense, de pouvoir en parler sans doute avec le recul du temps pour certains. Ouais. Le temps fait son œuvre pour s'en libérer.
Et on voit bien effectivement que ceux qui témoignent encore aujourd'hui, dans leur famille, à vous-même, Raphaël Branche, témoignent d'une société qui n'est plus du tout la même. Oui. Vous rappelez que lorsqu'ils partent en 1954, il y a un tiers des adolescents qui quittent l'école à 14 ans pour travailler. Vous rappelez que l'autorité paternelle est considérable dans la société de ces années-là et qu'on ne va pas contre son père, à moins de devenir un véritable rebelle ou un blouson noir. Vous rappelez qu'on se marie à la sortie de la guerre d'Algérie et que la première chose à faire, c'est de se marier pour pouvoir envisager l'avenir. Et il faut témoigner de cela à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui vivent dans une société tout autre.
Oui, c'était important. Enfin, c'est le propre d'un travail d'historienne, hein, je pense, c'est de toujours restituer le contexte. Et donc, effectivement, il y a 60 ans de l'histoire de France, et peut-être même un peu plus si on commence à leur enfance. Et donc, j'ai essayé aussi de faire une histoire des familles, une histoire des relations familiales, une histoire de la relation des pères aux enfants, des époux entre eux.
De l'honneur de porter la cocarde parce qu'on est pris au conseil de révision, par exemple, à 19 ans, et qu'on va faire l'armée.
Aujourd'hui, alors en particulier, ça c'est vraiment un point essentiel, en particulier aujourd'hui, quand on intervient dans les lycées ou les collèges, il faut quand même expliquer ce que c'est que le service militaire. Voilà, tout simplement, ça, on ne sait absolument plus ce que ça veut dire donner 2 ans de sa vie à la patrie, sans aucune possibilité de refuser, puisque c'était quand même le cas à l'époque. Et donc, quand un enfant dit à son père, ou un petit enfant, mais un enfant aussi, mais pourquoi tu n'as pas déserté, comme si c'était une évidence, c'est une grande violence, en fait, pour l'ancien appelé qui entend ça. Et qui sans doute baisse les bras parce qu'il faudrait tout réexpliquer, il faudrait réexpliquer le contexte, il faudrait réexpliquer qu'il n'y avait pas cette liberté-là. Et donc là, j'essaye de faire dialoguer en fait des périodes et des époques pour éviter les
anachronismes.
Les anachronismes et les problèmes de compréhension.
Kader Attia, sur ce changement entre la société, même la société algérienne de 1962 et la société algérienne d'aujourd'hui, un changement considérable aussi.
Ah oui. Vous savez, je vous écoutais parler, et puisqu'on a beaucoup parlé de silence, la cacophonie aussi crée du silence. Et je pense qu'on vit aujourd'hui dans un monde cacophonique où il y a une surenchère de données, d'informations, de récits, de bruits en fait,
qui finalement empêchent les choses pertinentes, les récits pertinents, les moments de silence qui font du sens aussi. Et donc il y a aussi un paradoxe dans cette cacophonie, c'est que le silence peut-être ce bruit assourdissant dans lequel aujourd'hui nous par exemple sur l'histoire postcoloniale l'échec retentissant de la période postcoloniale dans les pays anciennement colonisés, pour moi produit une cacophonie qui justement empêche les voix des militants,
d'émerger.
Des intellectuels, des journalistes qu'on enferme, etc. Ce qui est le cas d'ailleurs en Algérie aujourd'hui, vous voyez. Donc, moi je crois que le silence, il a aussi, je ne sais plus ce qu'il le disait tout à l'heure, mais les récits se lisent en fonction aussi d'une chronologie, en fait. C'est pour ça que l'histoire du récit de mon oncle Ali m'a marqué, parce que c'est le récit d'une guerre dans les années 50-60, qu'on vous raconte, qu'on a gardé comme ça, refoulé jusqu'en 90. Et moi, je dis n'importe quoi, 20 ans après, je continue ma vie, j'épouse ma femme qui est française et dont le grand-père était justement en Algérie et militaire, et qui n'était pas jeune d'ailleurs, et qui n'en a jamais parlé non plus, jamais, dans la famille française. Donc si vous voulez, moi je crois qu'il y a, la difficulté de notre époque aujourd'hui, c'est pour ce travail de mémoire, c'est d'essayer de, dans ces méandres en fait que constituent toutes les histoires contemporaines que nous sommes en train de vivre, de faire ce travail, parce qu'il doit être frais, de réparation, même s'il est irréparable, hein, je ne dis pas qu'on puisse réparer comme ça avec un coup de baguette magique, mais de faire ce travail de manière à, je dirais, comme ce qu'on a essayé de faire à la colonie, à au moins donner la possibilité aux descendants des colonisés d'écrire leur récit aussi. C'est ça l'histoire, hein, de se réapproprier leur récit, de manière à... Parce que c'est là où il y a, pour moi, parmi tous les silences qu'on pourrait citer, le silence officiel du manque de détails de l'histoire de la colonisation dans les livres d'histoire, etc., parce qu'on parlait des lycées tout à l'heure, pour moi, contribue aussi à entretenir cette blessure béante, bon, une blessure
qui est quand même,
en tout cas inconsciente.
C'est quand même une histoire qui est plus présente qu'elle ne l'a été auparavant, tout de même, dans notre histoire. Dans l'enseignement, je veux dire.
C'est quand même assez récent. Hein.
Oui, c'est récent.
Moi, c'est assez récent.
Mais c'est tout de même présent. Un dernier mot, très très brièvement, avec vous, Raphaël Branche. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait, ces mémoires familiales, ce travail sur les familles, peut s'appliquer à d'autres moments traumatiques, pour d'autres situations, dans d'autres endroits d'Europe, du monde, etc. Est-ce que c'est un modèle, justement, que de travailler non pas simplement sur les témoins qui ont vécu les événements, mais sur ce qu'ils en ont raconté dans leur Adelphie, puisque c'est comme ça que vous utilisez pour parler des frères et sœurs, par exemple, ou dans leur famille, très brièvement?
Oui, je pense que c'est important de se souvenir qu'il n'y a pas d'individu. Les gens sont toujours reliés.
En société.
En famille et en société.
Merci à tous les trois en tout cas. Merci beaucoup Sophia Metidji, merci à vous Kader Attia et merci à vous Raphaël Branche d'être venu. Je rappelle que votre livre s'intitule « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? Enquête sur un silence familial ». C'est aux éditions de La Découverte. C'était le Temps du Débat, Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier et Iman Gilles. À la technique aujourd'hui avec nous, Ludovic Auger. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Demain, une émission spéciale comme le vendredi, une conversation mondiale. Vous savez que la conversation mondiale, c'est à la fois un texte que nous publions sur le site de France Culture chaque vendredi, mais également une discussion entre deux intellectuels ou deux écrivains, deux artistes de France et d'ailleurs. Demain, comment le coronavirus interroge-t-il le prix de la vie, avec Didier Fassin et Vladimir Pinheiro Safatlé, professeur de philosophie à l'université de São Paulo au Brésil. Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour Affaires culturelles avec Jean-Philippe Toussaint. Vous écoutez France Culture, il est 19h.